Grâce aux avancées scientifiques, nous avons pu démontrer que bon nombre d'animaux sont capables de ressentir la douleur, ont une personnalité propre et sont bien plus intelligents que ce qu'on imaginait par le passé. Pourtant, à bien y regarder, il semblerait que notre morale et notre justice n'aient pas pris en compte ces avancées scientifiques. Aujourd'hui, aux yeux de la loi, ces individus sentients qu'on appelle les animaux n'ont pas beaucoup plus de considération qu'une étagère IKEA. Gandhi disait qu'on reconnaît la grandeur d'une civilisation à la manière dont elle traite ses animaux. Alors, il est peut-être temps qu'on se penche sur ce qui est peut-être la plus grande discrimination de l'histoire, et qu'on repense de toute urgence notre rapport aux non-humains. Heureusement, il y a un mouvement qui a déjà réfléchi à toutes ces questions avant nous. Ce mouvement, c'est l'animalisme, et j'ai aujourd'hui la chance d'accueillir l'un de ses principaux représentants.
Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.
Salut Jérémy et bienvenue sur le podcast.
Salut Shaiman, merci pour l'invitation.
Et du coup, je te propose de commencer par une petite présentation. Qui es-tu et quel est ton parcours?
Ok, alors juste un truc, je ne suis pas un des principaux représentants de l'animalisme. Je ne passe pas encore à la télé, j'ai pas encore écrit de bouquin et tout ça. Et je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de représentants de l'animalisme. En France, il y a quelques personnes que tu vas interviewer bientôt, mais je sais même pas si elles se considèrent vraiment ou si on les considère vraiment comme des représentants de l'animalisme. Tant le mouvement est assez varié, quoi. Et donc, ton intro était vraiment géniale. Et effectivement, il y a des gens qui ont déjà pensé à l'animalisme. Je pense que ça fait plusieurs milliers d'années au moins qu'on réfléchit au sujet, qu'il y a des gens qui écrivent des choses dessus et que les gens se disent qu'il faut faire quelque chose pour aider les animaux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même encore au début du mouvement. On est encore au début du mouvement parce que les idées sont encore très naissantes. Il y a encore très peu de gens qui se consacrent à cette cause et ça reste, comme tu dis, les animaux peuvent être considérés des fois comme un meuble IKEA. Du coup, je prends ça en compte et moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de poser les bases, de construire un peu le mouvement. J'ai commencé il y a quelques années par donner des formations sur qu'est-ce qu'on peut faire pour agir pour les animaux, c'est quoi les notions de base, animalisme, la sentience, l'antispécisme. Il y a tellement de définitions différentes, il y a tellement de courants différents que j'essayais de cadrer un peu ça en disant justement que il y avait toute une variété, mais qu'on pouvait donner quelques principales idées pour s'y repérer. Et il y a une centaine de personnes qui sont venues dans mes formations dans les 6 premiers mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer une asso et de professionnaliser mon militantisme. Et en fait, dans ces dernières années, dans ces 3 dernières années, je pense que j'ai pas mal contribué à professionnaliser la partie un peu philo, intello, sentience du mouvement animaliste français. Donc on est plusieurs à avoir participé à ça, et notamment ça passe par la construction d'associations sérieuses, essayer de récolter des dons, des subventions, d'avoir un budget, essayer d'embaucher des gens. Donc là, dans les 3 dernières années, avec les personnes avec qui j'ai bossé, on a dû embaucher entre 10 et 15 personnes. Ce qui est assez bien et assez cool pour démarrer justement des choses, des projets un peu plus gros que ce qu'on pouvait faire à une échelle de bénévoles individuels. Là, on continue sur cette approche de professionnalisation. On essaye de faire une sorte de charte, de cadre interassociatif où on voit comment on peut travailler collectivement, entre assos, avec les bénévoles, comment faire pour avoir un cadre avec toute cette variété du mouvement animaliste et éviter que on se dise « Ah non, mais toi, ce que tu fais, c'est nul ». Essayer de voir un peu comment travailler ensemble, quoi.
Ok, excellent. Et du coup, tu me disais un petit peu quand même que toi, avec des amis à toi aussi, vous aviez donné un petit peu un nouveau souffle un peu au mouvement animalisme quand même. Enfin, je sais pas si t'as cette prétention-là, mais concrètement, ça s'est passé comment?
Je sais pas, par hasard. je pense par chance. On a été plusieurs à pouvoir s'impliquer à plein temps dans la cause animale et à être intéressés par mobiliser des gens autour de nous. Donc que ce soit moi à travers les formations, que ce soit Mathaï Souchon avec notamment les estivales de la question animale qui est l'événement animaliste, intello, antispéciste, francophone le plus gros actuellement et qui rassemble plusieurs dizaines voire centaines de personnes tous les ans sur des sujets assez pointus. Et sur justement aussi cette idée de professionnalisation, de qu'est-ce que je vais faire de ma carrière, qu'est-ce que je vais faire de mon temps, avec Amadeus aussi, qui est fondateur de l'association Future, et qui a pas mal travaillé à aider les autres associations à se mettre en avant, à faire des vidéos, et qui aujourd'hui, avec qui je travaille, et qui aujourd'hui fait un gros travail de vulgarisation, une sorte de combini de l'animalisme. Et donc en fait on s'est un peu mis par hasard parce qu'on avait les capacités physiques, financières de pouvoir s'investir et de pouvoir voir sur un peu plus long terme et essayer d'établir une stratégie à long terme où justement il y avait besoin de faire des associations qui vont embaucher des gens.
Ok, excellent. Et du coup, quoi, toi concrètement ton métier du coup c'est de participer à ces choses. Tu es engagé en tant qu'animaliste, disons, professionnellement.
Ouais, alors je crois que j'ai toujours vu mon. Au début, au tout début, non, au tout début, je pensais, quand j'ai découvert en fait la cause animale, le véganisme, je suis tombé au début sur le véganisme et après l'antispécisme, c'était à l'époque de Aymeric Caron. Et donc quand j'ai découvert ces sujets-là, je me suis dit merde, attends, mais en fait, c'est ça qu'on fait aux animaux, je savais pas. Et on n'est pas obligé de les manger. J'avais pas réalisé vraiment que bon, je voulais pas vraiment y réfléchir. Et donc quand je me suis mis ça dans la tête, je me suis dit, merde, mais en fait ah ouais, on n'est pas obligé, ça les fait souffrir, ils ont pas l'air d'avoir envie de faire ça, d'avoir ça, et on n'est pas obligé. Donc je me suis dit bon, OK, vas-y, je vais arrêter. Et puis avec ma copine, on a décidé d'arrêter ensemble. En quelques mois, on avait arrêté. J'ai passé beaucoup de temps à lire un peu tous les arguments et tout parce que je voulais être sûr que c'était bien le bon truc parce qu'en fait j'avais pas envie d'arrêter de manger les animaux. Donc j'essayais de chercher un peu tous les arguments pour ne pas arrêter, tout, me dire non mais en fait on peut parce que on a toujours fait ça, c'est comme ça, c'est le lion, je sais pas quoi, enfin on peut trouver toutes sortes d'idées. Et bon, je me suis bien rendu compte qu'en fait il y avait pas beaucoup de justification morale derrière et j'étais déjà pas mal impliqué dans des causes éthiques humaines. Et je me suis dit, bon, bah, ok, en fait, il n'y a pas trop de raisons de faire une discrimination. Tu disais, c'est peut-être la plus grande discrimination de notre histoire. C'est possible que ce soit la plus grande discrimination de notre histoire, en tout cas actuellement, de ce qu'on en connaît. Et donc, moi, je me suis dit au début, allez, vas-y, je vais parler autour de moi, je vais parler à des amis, je vais parler aux gens dans la rue, et dans 6 mois, c'est bon, tout le monde sera vegan. Là, je me suis dit ça, tu vois, les gens vont arrêter de manger les animaux, bon, ça a l'air simple, je l'ai fait, alors que moi, je détestais les légumes. Moi, je mangeais aucun légume, j'ai arrêté de manger les animaux, c'était pas très compliqué. Et donc, je me suis dit ça, et donc, si tu veux, pendant 6 mois, j'ai arrêté de bosser, et je suis allé dans la rue, je suis allé parler aux gens, et en fait, je me suis rendu compte au bout de 6 mois que ça a pas marché, je me suis dit, ok, c'est pas grave, en fait, maintenant, j'ai la stratégie, il me faut encore 6 mois de plus, j'ai compris les arguments et tout ça. Et voilà, donc je suis retourné 6 mois encore à faire ça, et ça a encore pas marché. Et du coup, je me suis dit, ok, là, il y a un truc, en fait, ça va être à plus long terme, c'est plus gros, c'est plus dur que ce que je pensais, ça va être à plus long terme, et ça va être, il va falloir faire des choses plus grosses que tout seul, moi, de mon côté, quoi. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait professionnaliser la cause, quoi, faire quelque chose. Bon, je suis pas le premier à faire ça, hein, mais c'est là où je me suis dit moi-même, pour moi-même, qu'il fallait que je rentre dans cette partie de professionnalisation, quoi.
Oui, c'est vrai que ça reste des éléments qui sont vraiment ancrés dans la culture, l'imaginaire collectif, etc. Du coup, c'est extrêmement compliqué. Je pense que ça va se faire sur du assez long terme. Mais c'est vraiment intéressant. Et ça remet, je trouve, en tout cas, l'animalisme que j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps, remet bien en question tout un tas de valeurs qu'on accepte finalement parce qu'on vit dans une société dont on n'a jamais remis en question, des valeurs qu'on n'a jamais remises en question et qui tout d'un coup se trouvent bouleversées par des arguments comme ça. Donc ouais, c'est vraiment chouette. Peut-être pour les gens qui ne savent pas forcément en gros c'est quoi l'animalisme.
Ok, alors justement j'aime beaucoup ce que tu dis sur la remise en question des valeurs et tout ça, et je trouve que il y a quelque chose de très particulier avec l'animalisme, c'est que ça nous pousse un peu nos réflexions éthiques, vraiment dans des retranchements auxquels on n'a pas l'habitude, et en fait ça a des implications sur comment on va interagir entre humains. Et en fait, on s'en rend pas vraiment compte au début, on a l'impression que c'est un domaine un peu séparé, mais finalement, moi j'ai beaucoup découvert, avec toutes les parties d'éthique, philo, sur ces sujets des animaux, sur le sujet des animaux, j'ai beaucoup découvert finalement des choses sur comment se comporter entre humains. Et c'est hyper enrichissant, et c'est finalement ça conduit à toute une nouvelle vision de la société, ça peut conduire en tout cas à donner une nouvelle vision du monde complètement, quoi, de comment on voit les autres. Et voilà. Et après, pour répondre à ta question de qu'est-ce que c'est l'animalisme, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a tellement de courants ou autres que ce serait difficile de dire qu'est-ce que c'est exactement l'animalisme. Je pense que c'est le truc qui rejoint tout le monde, c'est un peu un souci des animaux. Donc les animaux, par les animaux, on entend tous les animaux qui sont pas des humains, donc au sens de la définition habituelle du dictionnaire. Tous les animaux dont on peut connaître, y compris, alors il y a des gens qui se demandent, mais les poissons, les insectes sont des animaux. Il y a d'autres animaux aussi, on ne sait pas trop, on se rend pas compte, c'est des éponges de mer sont des animaux. Il y a deux trois autres spécimens où on se rend pas forcément compte que ce sont des animaux, mais ça en est. Et donc je pense que c'est juste un souci éthique, moral, mental en tout cas pour les animaux, quoi.
Ouais, de ce que j'avais pu voir, en tout cas en regardant la page Wikipédia animalisme, en gros, c'est justement donner une considération morale aux animaux, et puis concrètement, ça se passe souvent par des droits qu'on va leur donner pour permettre à ce qu'ils soient pas trop exploités, ou enfin le moins possible en tout cas, militer pour que ces choses changent dans la société. Et d'ailleurs, tu disais... que ça l'animalisme en fait parlait de tous les animaux non humains, mais du coup est-ce que ça prend aussi en compte les animaux qui sont pas forcément sentients? Donc pour les gens qui savent pas forcément ce que c'est, en gros la sentience, c'est, on pourrait résumer ça, tu me diras si c'est correct ou pas, ça serait un peu le fait d'avoir un quelque chose que ça fait d'être soi. C'est pas vraiment comme de la conscience, c'est pas vraiment comme de la sensibilité, c'est un peu la capacité à ressentir la douleur, à ressentir la peur, etc. Et finalement, on pourrait se demander, est-ce que ça vaut la peine de prendre en considération morale des animaux qui n'auraient pas forcément cette sentience? Des animaux, par exemple, qui n'ont pas de souffrance, est-ce que ça vaut la peine de les prendre en compte?
Ouais, très bonne question. Alors, je me rends compte que je me suis présenté sans dire complètement ce que je faisais. Moi, du coup, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Mission Sentience. Donc la sentience, c'est un truc important dans mes activités quotidiennes. Et donc c'est un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire les animaux. Donc est-ce qu'on prend tous les animaux pas les humains, les animaux sentients pas les animaux sentients. La sentience, alors il y a un truc cool, c'est que c'est arrivé dans le dictionnaire dans le Larousse il y a pas longtemps, et je crois dans le Robert aussi. Et alors le Larousse, il y avait une définition. Je l'avais noté, voilà, ils avaient dit, donc la définition de la sentience dans Larousse, c'est pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur le côté subjectif, le côté d'avoir une expérience personnelle, de vivre quelque chose personnellement, donc quand tu as des interactions dans la vie, ça te fait quelque chose personnellement, c'est ça le côté important de la sentience, le côté subjectif. Ce qui est assez étonnant, c'est que le Larousse du coup a mis pour un être vivant, alors que finalement la sentience est pas liée directement au vivant, enfin en tant que concept en tout cas. Aujourd'hui, effectivement, les êtres sentients sont des êtres vivants, et les êtres sentients qu'on connaît aujourd'hui sont que des animaux. Tous les animaux sont pas sentients de ce qu'on en sait des recherches, mais ceux qui sont sentients aujourd'hui sont des animaux, donc y compris les humains.
Mais en fait, plante, bien, il n'y a aucun champignon qui est sentient.
Bah, en fait, dans l'animalisme, dès qu'on commence à creuser, de toute façon, les questions sont difficiles de répondre par oui ou par non directement. Disons qu'il y a pas mal de recherches sur ce sujet depuis un certain moment. Oui, on pense que effectivement, les individus qui sont le plus probables d'être sentients, où il n'y a pas trop de doutes, ce sont des animaux, et uniquement des animaux, et pas tous les animaux. Demain, c'est assez probable, je crois, que des robots, des intelligences artificielles, des logiciels puissent développer la sentience et être sentients. Donc ça peut se faire sur des organismes qui ne sont pas vivants, tels qu'on connaît la définition du vivant actuellement. Et enfin voilà. Et pour répondre à ta question sur
les animaux, justement, du coup, tu disais, ouais, l'animalisme, est-ce qu'il prend en compte uniquement les animaux sentients ou aussi les autres?
Bon, y a des mini-débats qui sont. Il y a des mini-débats un peu dans le milieu, notamment en essayant d'opposer un peu le véganisme à ce qui serait l'antispécisme. Mais alors souvent les définitions sont multiples pour le véganisme, multiples pour l'antispécisme. Chacun prend la définition qui l'arrange et dit que l'autre truc n'a aucun sens. En vrai, je pense que ça n'a pas tellement d'importance de se batailler sur des trucs de définition. Y a des gens qui veulent prendre en compte tous les animaux. Il y a des gens qui, dont je fais partie, qui mettent en avant la sentience et donc le fait que ce soit plutôt des êtres sentients, que ce soit des animaux ou pas, même si aujourd'hui tous les êtres sentients sont des animaux, mais mettent plutôt en avant ce critère de la sentience parce qu'on pense que c'est un critère qui est le critère non arbitraire, qui est pas un critère choisi arbitrairement, qui est pas un critère anthropocentriste, qu'il y a une vraie signification derrière de pourquoi prendre ce critère. Alors que souvent, quand on dit on veut prendre tous les animaux, ou tous les êtres vivants, ou pourquoi pas toutes les choses qui existent sur Terre, souvent ça rentre dans un peu un côté arbitraire, où on a du mal à le justifier dès qu'on commence à pousser avec des expériences de pensée compliquées. Voilà, la majeure partie du mouvement animaliste prend en compte les animaux parce que justement ce sont des êtres sentients, ce sont des êtres qui ressentent des choses, qui souffrent, et c'est ça la caractéristique principale qui fait qu'on peut s'intéresser au sujet. Il y a pas trop, je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui militent pour les cailloux, par exemple, parce qu'on se rend bien compte qu'ils ressentent rien et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi.
Et ce qui est très intéressant du coup avec cette définition-là, c'est que comme tu le dis, avec des avancées technologiques qui pourraient arriver, on pourrait s'imaginer des intelligences artificielles qui deviendraient sentientes ou comme ça, et du coup, en tout cas, une partie des animalistes pourrait en venir à défendre, par exemple, des droits d'intelligence artificielle.
Ouais, complètement, complètement, mais c'est déjà le cas. Du coup, c'est déjà le cas. Alors, pour les droits, il y a plusieurs approches. Tout le monde n'est pas favorable de l'approche de mettre des droits, spécifiquement de mettre des droits. Et je crois que notamment Peter Singer, qui a beaucoup démocratisé ses idées d'animalisme, de sentience, de cercle ou sphère de considération morale, est pas à fond dans cette idée de mettre des droits. Il est plutôt sur la vision de si un être est sentient, s'il ressent quelque chose, on pourrait, on devrait prendre en compte son ressenti, son existence, ce que ça lui fait, et on pourrait agir en fonction de ça, sans forcément définir qu'il doit y avoir des droits absolus, cadrés pour tel ou tel cas, quoi.
Après, du coup, s'il n'y a pas de droit, comment ça se passerait, par exemple, juridiquement? Imaginons quelqu'un qui ouvre une mine d'or au Sri Lanka et qui défonce la moitié des animaux qui se trouvent une méga forêt primaire super cool. Comment est-ce qu'on pourrait dire, ah ben non, ce que tu fais, c'est pas bien, et du coup qu'il ait des conséquences de ça? Ce serait juste à chaque individu d'avoir conscience de ça?
Non, alors effectivement, là, dès qu'on rentre dans une société humaine, notre société humaine habituelle, on a effectivement l'habitude de voir ça avec des droits, des devoirs, des lois et tout ça. Effectivement, si on veut avancer dans cette société, ça paraît plutôt vraisemblable de dire qu'il va y avoir des évolutions des lois et que ça passera par des droits ou des droits, alors droits au positif, négatif, dans le sens des trucs qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc ça pourrait être ne pas tuer des animaux. Ou alors ne pas tuer des animaux inutilement, et après, tu vois, tu prends l'exemple de la mine, mais en fait, souvent on se dit, ah oui, bah du coup c'est pas bien, mais en fait, dès qu'on commence à faire quelque chose dans notre vie, en fait, on a un impact sur autrui, et beaucoup sur des animaux, beaucoup des fois sur des animaux tout petits qu'on voit même pas, et la question se pose quand même de, bon, bah est-ce qu'on arrête, on fait plus rien, ou est-ce qu'on peut continuer à vivre et faire des choses? Tu vois, si tu veux construire une maison... Tu veux construire une maison, je sais pas où, bah potentiellement tu vas avoir plein d'animaux ou notamment des insectes qui vont être là juste en dessous sur le terrain où tu veux construire ta maison, quoi. Est-ce que ça veut dire que t'as pas le droit de construire une maison pour autant? Tu vois, on rentre après dans les trucs un peu compliqués.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, je pense que, enfin, j'ai parlé du fait que j'allais t'interviewer un peu autour de moi, et il y a une remarque qui est revenue assez régulièrement, c'est, mais en fait, ils se battent pour quelque chose qui est déjà gagné. parce que les gens, ils sont déjà intéressés par les animaux, ils ont déjà une considération morale pour les animaux. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui va taper sur son chien ou je sais pas quoi, peut-être même qu'il peut déjà être poursuivi en justice, peut-être qu'il peut avoir, enfin, il va pas être bien vu de son entourage. Donc finalement, il y a déjà une considération morale pour les animaux. Et ça va même plus loin. Parce que il y a des projets, je sais pas, par exemple, proche de chez moi, il y a des personnes qui veulent installer un truc pour faire du surf sur un lac avec des vagues artificielles. Et il y a des associations qui clairement militent en disant, bah non, attendez, il y a des animaux, ça va tous les perturber, ça va pas et tout. Du coup, est-ce que finalement vous vous battez pas pour quelque chose qui est déjà gagné?
Ça serait cool, ça serait cool. Mais je pense que c'est un peu, y a un peu tout un paradoxe, ou pas un paradoxe, mais il y a un peu tout un truc où effectivement la population actuelle occidentale qu'on connaît, en tout cas, a effectivement une considération pour les animaux. C'est clair, Les gens, il y a pas mal de gens qui vivent avec des animaux, qui aiment leurs animaux, qui les considèrent comme des membres de la famille. Donc y a, effectivement, il y a déjà ça. N'empêche, bon, il se trouve qu'on fait quand même beaucoup de mal aux animaux par nos actions ou nos inactions, parce que c'est un peu des habitudes. Et typiquement, je pense qu'il y a une chose principale auquel tout le monde pense quand on parle animalisme, c'est la bouffe, c'est l'élevage industriel, c'est l'élevage tout court, en fait. Et on a tendance à penser qu'on n'est pas c'est pas nous, on n'est pas responsable ou je sais pas quoi, mais finalement c'est on a une considération morale pour les animaux, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'y fait quand même pas grand-chose, qu'on n'y fait pas assez, quoi. Et donc, notamment, bah, c'est vrai que se dire qu'on pourrait voter l'abolition de l'élevage ou arrêter personnellement de manger des animaux ou en manger moins, c'est des choses qu'on pourrait se dire qui seraient un peu évidentes pour des gens qui se soucient des animaux. Et pour autant, c'est pas vraiment ce qui se passe dans la société, quoi. Donc, j'ai pas l'impression que, du coup, on se battrait pour rien. Dans le sens où j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est déjà gagné, et notamment parce que ça peut être juste difficile de changer d'habitude, qu'on se rend pas compte de ce qui se passe. Moi, j'ai surtout l'impression qu'on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, autant d'un point de vue tu vois, souvent on veut pas voir les vidéos d'abattoirs ou autres. Quand on les regarde vite fait, on n'a pas envie d'en voir une deuxième, on se rend pas vraiment compte, on veut pas vraiment se mettre dedans, et on se rend pas compte aussi de la mesure de l'importance de ce que c'est. C'est-à-dire que là, on a sorti une vidéo là avec Futur où on disait qu'il y a une semaine, là, on a passé le cap des 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Et ça faisait penser qu'en fait, 8 milliards d'individus sur Terre, c'est le nombre d'animaux qu'on tue tous les 3 jours pour la consommation humaine. Okay. Et donc, en fait, on tue 8 milliards d'animaux tous les 3 jours juste pour manger, alors qu'on est, plus obligé de le faire, on n'est plus obligé de les tuer, de les manger. 8 milliards, c'est-à-dire, c'est comme si tu pars un week-end, tu reviens, et ça y est, il n'y a plus d'humains sur Terre. Donc, je pense qu'on ne se rend pas compte du chiffre un peu astronomique que ça représente, de ce qu'on fait réellement dans la vie, même si on ne se rend pas compte de le faire, puisque effectivement, on ne travaille pas dans les abattoirs, quoi. Ou dans les élevages.
C'est vraiment délirant, en vrai, ce genre de chiffres. On ne se rend pas compte à quel point c'est... Puis là, c'est vraiment que pour la consommation, pour la nourriture, quoi. Donc, ça doit être assez impressionnant aussi si on prend en compte le reste. Et justement, je pense qu'il y a aussi cette idée où beaucoup de gens vont avoir de la considération morale pour leur chat, pour leur chien ou ce genre de choses, enfin ce genre d'individu. Oui. Mais tu vois, même moi, je suis imprégné de la culture ambiante. Mais finalement, beaucoup moins pour, je sais pas, une vache, pour un poulet. Tu vois, on a tendance à dire, ah ouais, les poulets, ils sont un peu cons, ça sert pas à grand chose. Voilà, ouais. Ça c'est pas grave de les manger. Ou bien même encore pire pour des poissons, parce que les poissons, ils ont, enfin, on n'arrive même pas spécialement à reconnaître quand ils ont mal ou pas. Enfin, ils ont une tête différente de nous. Du coup, c'est plus difficile d'avoir de l'empathie pour eux. Finalement, on a de l'empathie et de la considération morale pour certains animaux, mais pas tous, quoi.
Ouais. Et encore, la considération morale qu'on a. Même pour quand on dit des animaux, les chats, les chiens, en vrai c'est souvent pour le chat, le chien avec qui on vit. On est quand même moins sensible à tous les autres, même si y a la plupart des dons dans le milieu animaliste global, je crois, sont faits à des refuges type SPA qui s'occupent plus des chiens et des chats que des vaches ou des cochons. Mais ouais, c'est et justement en fait c'est ce truc de on n'a pas beaucoup de considération morale pour les animaux qui nous ressemblent pas où on n'arrive pas trop à deviner qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils font, on se dit ils sont un peu cons, bon comme si c'était un critère qu'on utiliserait vraiment, genre des humains cons, tu vois, on les traite pas vraiment moins bien que des humains pas cons. Je crois pas que c'est la norme ici en tout cas. Mais en fait, du coup, tous ces trucs-là, c'est justement ce qu'on essaye de faire, notamment dans Mission Sentience, dans Futur, essayer justement de parler de parler un peu de toutes ces questions qu'on pourrait se poser, de finalement, comment il vit le poulet en fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vit, essayer de se rendre compte un peu plus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le sujet est un peu chiant. Je pense que c'est pas trop de la faute des gens, c'est que c'est un sujet qui est un peu chiant, qui est difficile émotionnellement. On n'a pas envie de se rendre compte que on fait souffrir plein d'animaux tous les jours. Et donc c'est un sujet qui est un peu chiant. Et je pense que là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de l'aborder avec des nouvelles choses, un peu plus des jeux par exemple, ou des vidéos un peu sarcastique, rigolote, trouver un peu des nouvelles approches pour intéresser les gens à ce sujet qui est de base pas un sujet qui passionne les gens, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'en découvrant quand même, en sortant tout d'un coup la tête du guidon des valeurs qui nous sont toutes faites, dans la société, il peut y avoir un sacré choc justement quand on se dit, ok, 8 milliards d'animaux tous les 3 jours, puis après on commence à s'intéresser à comment est-ce que ces animaux sont traités, comment est-ce qu'ils sont abattus, etc. Ça peut, émotionnellement quand même, beaucoup toucher, je pense.
Ouais.
Ouais. Et aussi, d'ailleurs, au niveau de ces protections, justement, enfin, des associations, par exemple, qui vont militer pour pas forcément construire des projets ou ce genre de choses pour la protection des animaux, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose d'assez différent par rapport à l'animalisme, c'est que souvent, ces associations vont parler un peu de cycles, de biodiversité, de protéger certaines espèces, pas créer de déséquilibre, etc. Mais avec une vision de l'animal finalement qui est partie d'un tout, qui est partie d'une espèce, et c'est surtout ça qu'il faut protéger. Là où dans l'animalisme, j'ai l'impression qu'il y a plus ce rapport à l'individu. C'est-à-dire que même si c'est une petite sardine et puis qu'il y a des milliards de sardines, bah cette sardine, elle va quand même ressentir de la douleur, elle va quand même souffrir, et il faut quand même avoir de la considération morale pour cette sardine, pas pour l'espèce entière, aussi peut-être pour l'espèce entière, mais aussi pour cette sardine en particulier, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, effectivement, il y a plusieurs, il y a plusieurs points de vue, et ce truc justement de cette nouvelle vision du monde qui arrive quand tu commences à creuser les sujets animalistes. Au début, tu tombes sur l'élevage. Bon, ok, tu te dis ok, en fait, on leur fait du mal et tout, c'est horrible. Les conditions d'élevage sont vraiment horribles. L'abattage est horrible, mais bon, à la limite, l'abattage, je crois que c'est quand même moins pire que l'élevage où l'animal vit toute sa vie dans des conditions horribles. Donc tu creuses, tu creuses, tu creuses, et tu te rends compte, ouais, en fait, il y a un truc. Et puis les animaux sauvages, moi j'ai longtemps fait des dons à Sea Shepherd, à WWF, à beaucoup d'associations qui parlaient des animaux, qui parlaient de la nature. Et à un moment, je me suis rendu compte, bon, alors déjà, je me suis rendu compte qu'elles ne parlaient jamais d'arrêter de les manger. Et du coup, ça paraît un peu bizarre de jamais en entendre parler, alors que d'un côté, tu donnes pour sauver, tu vois, quelques baleines, quelques dauphins, des pandas, et de l'autre côté, on ne dit même pas que tu peux arrêter d'en tuer 10, 100 fois plus, 1000 fois plus à l'année, quoi. Donc ça, c'était un peu bizarre, donc j'ai arrêté de leur faire des dons à partir de ce moment-là. Mais il y a aussi effectivement cette vision. Notamment, tu vois, j'imagine bien WWF. L'image qu'on a, c'est protéger la nature, la biodiversité, mais en tant que tel, protéger la nature et la biodiversité comme un bien en soi, quoi. Alors que effectivement, dans cette vision animaliste un peu nouvelle, j'ai l'impression que c'est une vision qui existe depuis quelques dizaines d'années. Commence à se développer surtout depuis quelques dizaines d'années, mais qui est d'un point de vue vulgarisation, je ne sais même pas si elle est encore beaucoup arrivée à l'oreille du public, mais effectivement il y a cette vision de l'individu plus que de l'espèce. Et ça, en fait, moi j'ai l'impression que c'est une sorte de révolution, c'est une révolution concrète dans la vie de tous les jours, parce que c'est un peu de l'ordre de la. Enfin, c'est bon, c'est depuis Darwin qu'on a un peu qu'on peut avoir cette vision-là, mais. J'ai l'impression qu'on peut s'en rendre compte un peu aujourd'hui, et que c'est une révolution similaire à ce qu'on a pu avoir quand on se disait la Terre était au centre de l'univers, et finalement, non, c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers. On se rend compte que finalement, on est peut-être passé à côté d'un truc, et notamment, bah, le truc, c'est comme tu dis, la petite sardine, bah, elle a peut-être sa vie, et pour elle, sa vie, elle compte. Et en fait, le simple fait que sa vie, elle compte pour elle, bah, ça pourrait nous faire dire, bah oui, en fait, si sa vie, elle compte pour elle, sa vie, elle compte tout court. Et c'est ça un peu la nouvelle idée principale des nouvelles visions animalistes qui s'occupent des individus, qui est de dire, bah, les individus, ils ont une vie pour eux-mêmes, ils expérimentent des choses, ils ont une vie, ils ont des moments cool, des moments pas cool, mais ça leur fait un truc, et c'est ce truc-là, le fait que ça leur fasse quelque chose dans leur vie, qui compte, en fait, qui devrait compter dans la société. Et finalement, ça compte plus que le fait d'être un représentant de son espèce, parce que tu vois, par exemple, les poulets sont pas une espèce en voie de disparition. Est-ce que pour autant les poulets vont bien? Individuellement, ils vivent pas très bien, quoi. Et ouais, voilà. Donc, je trouve que ce truc-là, c'est super intéressant, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Au-delà même du côté, voilà, ça dépasse un peu le truc de l'élevage, le truc un peu négatif. C'est vraiment, on a une nouvelle vision du monde, et c'est super intéressant. Ça ouvre plein de nouvelles perspectives, en fait.
Et finalement, tu vois, en disant que tous ces animaux, par exemple, on va prendre notamment ceux qu'on élève pour manger, on va dire, ok, bah, ces animaux, ils doivent avoir une considération morale. Et du coup, quelqu'un qui mange de la viande, quelqu'un qui mange même toutes sortes de produits issus des animaux, pourrait se dire, attends, ça veut dire que s'ils donnent une considération morale à eux, bah, ça veut dire qu'ils considèrent que ce que je fais n'est pas moral. Et en faisant ça, je suis quelqu'un finalement de pas moral selon eux, et donc ça peut créer de grosses réactances, quoi. Des gens qui vont vraiment se sentir vraiment attaqués, d'autant que justement ça fait partie de notre culture, etc. etc. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que toi tu considères vraiment que par exemple c'est des personnes immorales, ou bien comment est-ce que tu perçois ça?
Moi, j'étais très chiant au début de mon militantisme. Je m'en rendais pas trop compte, mais apparemment, j'étais un extrémiste. J'ai fait chier mes parents, mes frères. Bon, alors, bon, du coup, au bout d'un an, ils sont devenus quasiment tous véganes. Ma mère a ouvert un resto végan et tout ça, donc peut-être que ça a marché. Mais il paraît que j'étais très chiant. J'étais un peu comme un terroriste, quoi, tu vois. Donc, et je pense que du coup, c'est pas une bonne approche. Au bout de un an et quelques, je pense que j'ai arrêté ce truc-là. Moi, j'ai pas l'habitude de juger les gens. Je pense pas que les gens soient très responsables de ce qu'ils font, parce qu'on n'est pas, on est le résultat de tout plein de choses autour de nous, et on est le résultat de toute l'histoire qui vient avant nous, et dont on n'est pas très responsable, et dont on peut pas toujours faire grand-chose à changer. Et moi, j'ai pu en fait devenir vegan facilement, donc je me suis dit que ça allait être facile pour tout le monde, mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je travaillais chez moi, donc c'était facile de changer, mais quand tu travailles dans une entreprise avec des gens que tu veux, bah, tu manges avec eux à la cantine, bah, s'il n'y a pas de truc vegan, il n'y en a pas. Tu vas au resto, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu vas pas manger une salade tous les jours. Enfin, faut avoir sacrément de la motivation, en fait, pour aujourd'hui dépasser juste ce truc-là, et ne serait-ce qu'arrêter de manger les animaux. Et je pense que c'est le donc moi, je juge pas vraiment les gens. Je pense pas que ce soit les gens sont des mauvaises personnes, parce qu'ils font juste ce que la société fait, quoi. Je veux dire, je pense pas que tous les gens, mais ça voudrait dire que tous les gens sont des mauvaises personnes, enfin, à partir du moment où ils sont au courant, on va dire. Mais ça ferait beaucoup de psychopathes sur Terre, et j'y crois pas trop. Et je pense que le problème, quand on se focalise là-dessus, sur les personnes en tant qu'individus, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes juste sur leur consommation, on passe à côté du plus gros problème, ou de la plus grosse solution, qui est comment on peut agir collectivement. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons pratiques, en fait, peuvent pas arrêter de manger des animaux là tous les jours dans leur vie. Par contre, ils sont OK pour voter l'abolition tout de suite. Alors, je sais que toi, tu es en Suisse, qui a récemment eu un référendum. Il y a eu quand même beaucoup plus de gens qui ont voté pour l'abolition de l'élevage intensif dans 25 ans en Suisse, que de gens qui aujourd'hui consomment pas de produits d'élevage intensif, quoi. Donc, déjà, on voit qu'il y a un gros truc sur le fait on peut avoir des idées, et on peut ne pas forcément les mettre en application, parce que c'est compliqué, quoi. Moi, c'est pareil, à l'époque des sacs en plastique. Je me connaissais pas à fond, mais je me dis, ok, sac en plastique, quand tu vas faire tes courses, c'est un peu relou. Ah, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de sac en plastique, mais bon, bah, j'oublie toujours de prendre mon sac à moi. Finalement, j'ai pas envie de payer plus cher s'il faut prendre des sacs, machin. Donc, en fait, il a fallu attendre qu'il y ait une loi nationale qui dise, en France en tout cas, qui dise, allez, maintenant à partir d'aujourd'hui, aucun magasin a le droit de donner des sacs en plastique pour que tous les magasins changent en même temps. Et moi, je crois beaucoup à ce pouvoir collectif. Et notamment, les gens peuvent aujourd'hui, comme tu dis, ils ont déjà ces valeurs morales. La plupart des gens sont déjà opposés à l'élevage, ou au moins aux pires pratiques de l'élevage, mais ça fait quasiment tout l'élevage en vrai. Bon, je pense qu'il y a un gros truc à jouer là-dessus, et que c'est pas. Parfois, c'est peut-être utile de culpabiliser les gens. Bon, peut-être ça a marché pour ma famille, je sais pas. Mais je pense que globalement, c'est pas très très utile et qu'on peut faire beaucoup mieux, quoi.
Oui, puis je pense qu'il y a aussi cette notion de beaucoup de gens n'y ont tout simplement pas du tout réfléchi, en fait, ne sont jamais posé la question de est-ce que ce serait pertinent de devenir végétarien, vegan, d'aider les animaux au plus possible, etc. Étant donné qu'on vit dans cette culture, c'est un peu la norme. Donc beaucoup de gens, en fait, ouais, n'ont même pas réfléchi à ça. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est immoral de pratiquer quelque chose qu'on n'a jamais eu l'occasion de remettre en question? C'est une grosse question, je pense. Et en fait, une autre question que j'aimerais te poser, c'est justement ben, par rapport à ces droits. Justement, en discutant un peu autour de moi du fait que j'allais t'interviewer, j'ai eu une réaction qui m'a bien fait rire et que je trouve assez pertinente quand même. C'est est-ce que ça vaut la peine de donner des droits à des animaux s'ils peuvent pas attaquer en justice? Parce que finalement, la truite, elle va pas dire, écoutez, on est en train de détruire mon écosystème, j'ai bientôt plus d'habitat, et elle va pas aller attaquer des gens en justice. Du coup, qui c'est qui attaquerait en justice pour la truite? Est-ce que c'est les associations? Comment est-ce que ça se passerait, ça?
Bah on demande, je sais pas, à la présidente détruite. Non, je sais pas, s'ils ont une présidente, peut-être une déesse, un roi. Là, ils doivent bien avoir un conseil détruite, tu vois, je sais pas, ils doivent bien se réunir pour décider ce qu'ils font dans leur vie, quoi. Comment ils défendent leurs intérêts et tout, quoi. Non, en vrai, du coup, bon, bah, les gens qui proposent. Les gens qui proposent. Attends, je suis perdu parce que t'avais posé deux questions. Les droits. Et t'avais demandé, oui, le truc de c'est immoral. Et juste pour être clair, ouais, et je pense que t'as raison. En fait, la plupart des gens n'ont pas réfléchi au sujet. Parce que c'est chiant. Parce que c'est. Voilà. Et je pense que c'est à nous, en tant qu'animalistes, de développer des nouveaux contenus, bah, comme ce que tu fais aussi, pour donner envie, en fait, de s'intéresser au sujet. Et. Effectivement, moi je pense pas que c'est immoral du coup quand on n'est pas vraiment au courant. Et bon, même quand on est au courant, après il y a quand même une question pratique qui se pose, quoi. Et donc ouais, pour la question des truites, les gens qui sont partisans de l'approche de donner des droits, je pense que la plupart sont aussi partisans d'avoir des représentants humains, ou en fait de dire que si on est dans une société humaine et qu'on donne des droits dans une société humaine, on peut très bien gérer ces choses-là dans une société humaine. Et alors pour autant, c'est quand même très difficile encore aujourd'hui de savoir ce que veulent vraiment tel animal, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. C'est quand même pas facile parce qu'on n'est pas dans leur tête et on n'a pas encore fait tous ces traducteurs. On attend que Google sorte déjà le traducteur pour les bébés humains. Mais je pense qu'il travaille déjà à chercher à faire un traducteur pour les chats, les chiens, des animaux qu'on côtoie. Non, ça serait déjà super utile, et ça m'étonnerait pas que ça arrive peut-être même dans les prochaines années, quoi, peut-être assez vite en vrai. Mais du coup, pour les truites, je pense que c'est pas très compliqué, parce que pour les cas pratiques, les cas de tous les jours, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en fait on les fait souffrir, on les tue pour une habitude alimentaire qui est plus nécessaire, quoi, où on se rend compte qu'elle est plus nécessaire aujourd'hui. Du coup, ça c'est un peu le premier truc qu'on leur fait. Et donc ça paraît assez facile de se dire qu'est-ce qu'il faudrait pas faire. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de représentants humains détruits ou demander à la reine ou la présidente détruite qu'est-ce qu'elle veut, quoi. Genre on est à peu près sûr que oui, la souffrance, la mort, ça les intéresse pas trop, quoi. Voilà. Après, il y a des cas un peu plus compliqués de bon les truites, c'est peut-être difficile de cohabiter avec elles là dans la rue, dans la vie de tous les jours, mais on peut imaginer des chats, des chiens, des rats, des animaux. Avec qui on pourrait cohabiter. Là, on pourrait se demander, bon bah, comment on fait pour cohabiter avec eux? Si ce serait des animaux libres, par exemple, comment on fait pour cohabiter avec eux? Est-ce qu'ils doivent un peu participer à la société en travaillant en quelque sorte pour qu'on puisse les nourrir, les soigner, ou pas? Ou est-ce qu'on les laisse vivre leur vie et puis ils peuvent gambader et puis mais faut pas qu'ils nous embêtent non plus. Bon, là, il peut avoir des questions plus compliquées où ça a un intérêt d'avoir un représentant humain mais un représentant humain qui s'y connaît, quoi, qui agit dans l'intérêt des animaux, quoi. Et en vrai, je pense que c'est pas très compliqué de ce qu'on fait déjà en droit aujourd'hui. C'est-à-dire que y a plein de catégories de personnes qui sont pas en mesure de défendre leurs droits. Et l'exemple le plus courant, c'est les bébés ou les enfants mineurs, ou peut-être en dessous de, je sais pas, 10, 11 ans, où bah, les bébés, typiquement, bon, bah, ils vont avoir du mal à défendre leurs droits. Ça n'empêche pas qu'ils ont quand même des droits, notamment le droit qu'on ne les fasse pas souffrir et qu'on ne les tue pas. Et quand il y a un divorce, par exemple, et qu'un juge, et qu'il y a un enfant, et qu'un juge doit se prononcer sur... bon bah l'enfant, comment on va se répartir la garde de l'enfant? Bah, on n'est pas dans la tête de l'enfant, c'est difficile d'être dans la tête de l'enfant, c'est difficile de savoir quelle est la meilleure solution, mais dans ces cas-là, c'est l'intérêt de l'enfant qui est pris en compte. Donc on pourrait faire la même chose en se disant, bon bah on prend en compte l'intérêt des truites, même si on n'est pas dans leur tête, même si on ne sait pas exactement ce qu'elles veulent, on peut peut-être deviner un petit peu, voilà.
Excellent. Et puis justement, je crois par exemple, donc, moi j'habite en Suisse, et typiquement je crois qu'il y a une loi qui oblige le fait de, si on veut avoir des hamsters à la maison, d'avoir deux hamsters, on n'a pas le droit d'avoir un seul hamster ou des trucs comme ça. Est-ce que tu sais un petit peu où ça en est? Donc pas forcément en Suisse, je pense que tu connais mieux peut-être en France. Est-ce qu'il y a déjà justement des droits comme ça pour d'autres animaux comme ça? Et puis... Quel droit, selon toi, si en tout cas tu fais partie de cette approche, il faudrait ajouter pour que ça soit pertinent, justement? Quels seraient concrètement des exemples de droits qu'il faudrait donner à tel ou tel animal?
Ouais, c'est super marrant ton exemple sur les hamsters. J'avais entendu ça pour la Suisse, j'ai jamais entendu ça pour la France. Du coup, en France, je connais pas une loi similaire précise comme ça pour des hamsters, des chiens, des chats, mais il y a quand même la loi générale qui est que les animaux doivent être traités dans des bonnes conditions. J'ai plus le texte exact, mais Brigitte Gauthier te le redira, parce que c'est l'article L214, je crois, du code rural, donc de comment on traite les animaux qu'on élève, qui est que les animaux, étant des êtres sensibles, doivent être placés dans des conditions compatibles avec les besoins de leur espèce. Un truc un peu comme ça. Bon, c'est tourné d'une façon où ça peut vouloir dire qu'en fait, faut pas leur faire de mal et faut pas les tuer, mais ça peut aussi être tourné, on peut aussi le comprendre un peu différemment. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée, et comme tu disais, qu'on a quand même une préoccupation morale pour les animaux. Il y a quand même cette idée de ne pas leur faire de mal. Il y a pas mal de lois, je crois, pour les chats, les chiens, dans la loi française. Il y a des gens qui sont condamnés pour faire quand ils font des mauvais traitements sur des chats ou des chiens. Alors, je pense que ça va pas. Je crois qu'il y a des associations que tu peux contacter ou des services de police que tu peux contacter si tu vois un mauvais traitement dans un chien, tu vois, dans une voiture qui est en train de mourir, ce genre de choses. Donc il y a déjà ce côté-là qui est pris en compte, mais je crois pas que ça aille beaucoup plus loin que ça. Et c'est que pour des animaux, effectivement, avec lesquels on a un intérêt direct, donc souvent des animaux avec lesquels on vit et où on profite de la compagnie, quoi. Après, alors moi je suis pas trop dans l'approche des droits, dans le sens où bah, c'est aussi que je suis pas trop dans une approche. Là, je vais pas te dire quelle loi on va faire demain. Moi, je suis plutôt pour essayer de faire changer les mentalités, de faire découvrir les nouveaux concepts et de trouver un peu des contenus originaux, ludiques, qui donnent envie de s'intéresser à la question. Mais je dis rarement qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. J'ai pas trop ces réponses-là. Après, le truc auquel tout le monde pense, les droits évidents, c'est déjà de bah, pas faire souffrir ou pas tuer les animaux quand c'est pas nécessaire, et de reconnaître que de les manger, c'est plus nécessaire aujourd'hui, quoi. Ça, je pense que c'est les droits principaux. Et tout à l'heure, quand je te donnais le chiffre de 8 milliards d'individus tués par jour, par 3 jours, donc 3 milliards par jour, quoi, tu disais oui, et ça, c'est que pour la consommation humaine. Mais en fait, la consommation humaine, c'est 98 ou 99% des souffrances qu'on inflige, nous, en tant qu'humains, aux animaux, quoi.
Bien sûr.
Finalement, c'est un peu le truc principal, quoi.
Et puis, justement, on pourrait se demander, du coup, quitte à donner des droits, justement, comme le droit de ne pas forcément souffrir ou ne pas être tué quand c'est pas nécessaire, etc., est-ce qu'il faudrait aussi donner des devoirs aux animaux? Est-ce que on devrait dire au lion, bah écoute, tu vas pas manger la gazelle parce que la gazelle elle souffre, du coup t'as pas le droit de manger la gazelle. Ouais, un petit peu aussi cette différence qu'il peut y avoir entre un patient moral et un agent moral. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu tout ça?
Ouais. Alors, je pensais pas rentrer dans des. Moi, j'aime bien vulgariser la philo, mais je pensais pas rentrer dans les termes techniques. On a dit depuis tout à l'heure deux trois termes un peu techniques, mais je trouve qu'ils sont pas très importants. Souvent, ça embrouille un peu le sujet. Bon, puisque tu me demandes, je vais quand même dire le truc, mais on peut faire la différence entre les agents moraux et les patients moraux. Mais non, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça embrouille tout le monde. Je pense que c'est plus simple de donner des exemples. Et l'exemple typique, c'est le bébé ou éventuellement un chat. Les bébés, bon bah voilà, ils ont pas de devoir en tant que bébé humain quoi. Par contre, effectivement, ils ont des droits et notamment le fait de pas être tués ou de pas les faire souffrir quand c'est pas dans leur intérêt. Donc, on peut imaginer leur faire un vaccin, par exemple. On sait que ça va peut-être le faire souffrir une ou deux secondes, mais on sait que c'est dans son intérêt ou en tout cas on le croit et on le fait pour son intérêt. Et pareil, un chat. Alors un chat, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que quand on vit avec un chat, on se rend compte que ils font des choses, plus de choses qu'un bébé. Ils bougent déjà, ils communiquent. Des fois, ils font tomber des objets volontairement. Des fois, ils pissent partout volontairement. Et donc, du coup, il y a un peu cette question de qu'est-ce qu'on peut donner comme devoir à un chat, quoi. Il y a la plupart des gens de la population et même je pense la plupart des animalistes qui vont pas considérer que les chats ont un devoir particulier à respecter. On considère pas spécialement qu'ils ont un devoir à ne jamais pisser partout, je pense par exemple. Mais on considère que effectivement on a quand même des droits envers eux et notamment c'est toujours un peu ça, c'est les droits de pas les faire souffrir, de pas les tuer, peut-être de les nourrir si c'est par notre action que le chat est arrivé chez nous par exemple, on va pas admettre que quelqu'un adopte un chat et puis l'enferme dans un placard jusqu'à qu'il meure quoi. Voilà. Et du coup, je pense pas qu'on demande beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent vraiment des devoirs aux animaux. Mais par contre, on peut imaginer des relations des relations où on travaille ensemble. Et tu vois, à Paris, il y a des moutons qui sont utilisés pour tondre la pelouse dans certains jardins. Bon, bah, on peut imaginer que, voilà, on les met là, ils ont de la pelouse, ils mangent, ils sont contents, on va les soigner s'il y a besoin de les soigner. C'est une sorte de travail de leur côté, même si ils se rendent pas forcément compte que c'est ça. Ça peut être considéré comme une exploitation animale, du coup, mais ça peut être vu comme une exploitation animale qui fait pas de mal, quoi. Donc il peut y avoir des cas où on pourrait imaginer des relations comme ça, interespèces, qui soient profitables aux deux parties, quoi. Pareil avec les chats ou les chiens. En vrai, on considère, je pense, on considère un peu quand même la plupart des gens qui adoptent ou qui achètent un chat ou un chien le font pas dans l'intérêt du chat ou du chien directement quoi. Quand t'es animaliste et que t'adoptes des animaux dans un refuge parce que t'as pas envie qu'ils soient enfermés dans une cage ou qu'ils se fassent tuer, effectivement là tu le fais dans l'intérêt principal de l'animal. Mais je pense que la plupart des gens le font parce qu'ils retirent un intérêt personnel, que ce soit avec la compagnie, que ce soit avec des caresses, parler avec leur animal. Et du coup. Je sais pas si c'est une sorte de droit et devoir, mais je pense qu'il le voit un peu comme un échange de bons procédés, quoi. Voilà.
Excellent.
Et après pour le lion, je pense que si on lui dit de pas manger de gazelle, il va pas tenir très longtemps, pour l'instant.
C'est ça. Et un truc aussi que j'ai un peu entendu justement en m'intéressant un peu à tous ces sujets, c'est qu'il faut vraiment quand même être un sacré gauchiste pour s'intéresser au sort du steak qu'il y a dans notre assiette. Du coup, est-ce qu'on peut être animaliste et de droite?
Bah, il y en a. C'est triste de se dire que il faut être gauchiste pour être animaliste. Parce que je pense que, alors, c'est sûr qu'il y a des valeurs, il y a beaucoup de valeurs communes avec les valeurs habituelles de la gauche. Donc, bah, l'empathie pour les minorités ou les personnes vues comme minorités. Donc, les animaux, je pense, font partie de ce qu'on pourrait appeler des minorités dans la société. Et donc, ouais, effectivement, il y a beaucoup cette approche. Mais je pense pas que l'empathie, la compassion, le fait de pas vouloir faire de mal, de vouloir aider même en faisant du bien. Je veux dire, là, on parle toujours de pas faire de mal, mais il y a tout un pan de l'animalisme qui est comment aider les animaux en leur faisant des choses pour leur bien-être, sans qu'il y ait, sans que ça soit juste parce qu'on évite de leur faire mal. Et donc, je pense notamment aux animaux sauvages, mais ça, t'en reparleras, je pense, un peu plus avec d'autres prochains interviewés. Mais du coup, oui, il y a des gens de droite qui sont animalistes. Tant mieux. Si on regarde, je crois, les élections, la plupart des gens sont de droite ou considérés comme de droite par les gens de gauche. Donc, tant mieux que des gens de droite puissent être aussi animalistes. Et je pense que de toute façon, les sujets gauche-droite, des fois, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si tout le monde se retrouve forcément dans un seul côté ou si on ne se dit pas qu'il y a des idées qui sont un peu bonnes de chaque côté. Donc, je sais pas si on a tellement un intérêt à se dire que c'est qu'un truc de gauche, comme s'il n'y avait aucune bonne idée de l'autre côté et tout ça, quoi.
Et puis justement, tu disais un petit peu que, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, c'est qu'il y a un peu deux visions de l'animalisme. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais moi, personnellement, j'y vois un peu deux visions. Une vision un petit peu centrée sur la nature, justement, peut-être s'extraire un peu en tant qu'humain de cette nature, la laisser vivre, la laisser se développer, lui redonner ses droits. Et puis une vision peut-être moins centrée sur la nature, mais plus peut-être technologiste ou peut-être justement tu parlais d'intervention, ce genre de choses. Est-ce que tu perçois aussi ces deux mouvements et tu dirais que ça représente quoi en gros, quel pourcentage serait plutôt pro-nature ou comme ça?
Difficile à dire parce qu'en vrai, moi je travaille dans un milieu particulier, donc j'ai pas une vision si globale de qui fait quoi, combien de personnes de chaque côté. La vision globale de la société, c'est il y a un, bah, en fait, alors je pense que je m'y connaissais pas assez dans cette partie un peu de l'écologie, des écosystèmes, de savoir ce que les gens pensent directement. Souvent, on entend un peu effectivement des trucs de nature, Gaïa et tout, mais je pense pas que la plupart des gens se disent la nature pour la nature, la beauté de la nature. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que la planète, c'est une sorte de maison, et on voit l'écologie comme comment gérer la maison sur laquelle on vit. Et on sait bien que c'est une terre qu'on partage avec d'autres habitants. Et donc, je pense que beaucoup de gens se soucient quand des animaux sauvages, on va dire, de tous les habitants de la terre, en tant que tels, en tant qu'individus, quoi. Et après, ce côté un peu interventionnisme technologique et tout, en fait, je pense que souvent, c'est des mauvais débats. J'ai l'impression que souvent, les gens parlent pas de la même chose. Et en vrai, je pense que la plupart des gens sont d'accord sur les idées principales et que souvent, c'est juste une phrase qui est un peu mal comprise. Et notamment pour l'interventionnisme, c'est peut-être le sujet le moins bien compris du milieu animalisme, même au sein même du milieu animaliste. Souvent c'est un peu caricaturé, on a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui veulent intervenir, tu parlais du lion et de la gazelle, tu vois, il y a des gens qui nous disent souvent quand on dit ah oui, on devrait arrêter de manger les animaux, les gens qui disent ah oui mais le lion il mange la gazelle, donc je peux le faire aussi, donc il y a des gens qui répondent oui mais bon le lion il fait aussi plein d'autres choses, c'est pas un modèle de comportement, il tue des bébés, il fait je sais pas quoi, il pisse partout, bon c'est pas un modèle sur lequel on va se baser. Mais il y a aussi une réponse qui consiste à dire bah oui le lion il tue des gazelles et c'est triste pour la gazelle quoi, sans doute. Alors il y a des gens qui disent non c'est pas très grave, soit directement parce que la gazelle en fait ça se trouve c'était une gazelle malade donc ça va lui abréger ses souffrances, tu vois, on peut trouver une idée qui fait que finalement la gazelle elle est pas en train de perdre au change à se faire bouffer, mais il y en a qui vont dire bah c'est la nature, voilà, donc ok bon c'est grave pour la gazelle mais c'est pas grave parce que c'est la nature. Ou Il y a plein de conversations comme ça, mais souvent on parle pas de la même chose, et souvent on est d'accord avec les idées de base, qui est que bah oui, peut-être la gazelle elle souffre, et que oui, peut-être bah si on pouvait y faire quelque chose, peut-être ça serait cool d'y faire quelque chose. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde est un peu interventionniste. Souvent, si tu vois un animal dans la rue, tu passes devant un animal, il est en train d'agoniser, tu pourrais lui donner de l'eau, lui donner à manger pour l'aider, bon bah la plupart des gens vont le faire quoi, ou en tout cas se disent que ce serait une bonne idée quoi. Et il y a un peu tout un mythe avec ces trucs d'interventionnistes dans la nature et tout, mais je pense que c'est surtout qu'on parle pas souvent de la même chose, qu'on comprend pas les idées, plus que des grands désaccords, quoi.
Oui, donc quand même pour préciser, du coup, l'interventionnisme, ça serait d'aller aider les animaux, non seulement les animaux qui sont liés aux humains, mais aussi les animaux sauvages, quoi. Pour justement, comme tu leur disais, peut-être les soigner, peut-être éviter aussi les souffrances finalement des animaux sauvages. Là où peut-être d'autres pourraient dire, bah non, il faut vraiment pas s'occuper des animaux sauvages parce que c'est la nature et on doit laisser la nature telle qu'elle est, la nature est bien faite. Je pense qu'il doit aussi y avoir des gens qui pensent comme ça.
Ouais, mais tu vois, quand ils disent ça et qu'ils disent la nature est bien faite, il y a peut-être un peu ce côté de oui, mais en fait, les choses sont quand même bien. En fait, globalement, c'est mieux. En fait, et souvent, ce débat sur l'interventionnisme, il est un peu mal compris parce que des gens pensent que les gens qui se disent interventionnisme veulent intervenir là maintenant pour faire quelque chose, et on leur réplique non, mais si tu vas faire quelque chose, ça va empirer la situation. Mais c'est évident qu'en fait, les gens qui disent oui, on pourrait intervenir et si on peut le faire, on devrait le faire, c'est évident que eux disent que si on intervient, c'est pour améliorer les choses. Si c'est pour empirer les choses, on n'intervient pas parce que ça contredit l'objectif initial, quoi. Et donc souvent, c'est un peu, on a l'impression que les gens prennent les autres pour des cons ou qu'ils veulent pas vraiment réfléchir aux arguments avancés, quoi.
Et puis justement, ce que je trouve intéressant de prendre une perspective, disons, plus globale de l'histoire de l'humanité, et puis de se rendre compte que finalement, c'est un petit peu la théorie justement de la sphère de compassion, où on voit qu'au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, les humains prennent de plus en plus en compte d'autres choses que leur groupe basique et primaire à la base. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce concept?
Ouais, y a pas mal, y a notamment François Jacquet qui dit que finalement le spécisme, on n'en a pas parlé, mais le spécisme c'est la discrimination faite sur l'espèce. Donc en gros de dire que parce qu'un individu serait de telle espèce, alors on devrait faire tel ou tel truc, mais uniquement en se basant sur le fait qu'il appartient à telle espèce, en gros que le nom de son espèce c'est ça, plutôt que sur des caractéristiques propres liées à l'individu. Ou lié à l'espèce, parce que évidemment les individus, quand on les range dans des espèces, ils reprennent les caractéristiques de l'espèce. Et donc le spécisme, c'est un peu cette discrimination qui est faite sur un truc un peu infondé, quoi. C'est un peu une discrimination arbitraire qui est pas justifiée et que on essaie de lier des choses qui ont pas de sens, quoi. Comme si, bah un exemple, c'est oui, un cochon, on peut le manger. Pourquoi? Bah parce que c'est un cochon, en gros. Alors qu'on pourrait trouver des raisons. Il y a des gens qui disent qu'on fait du spécisme entre les différentes espèces. Par exemple, un chat, on va le caresser, on va jouer avec lui, on va lui donner à manger, on va jamais le tuer, on va le soigner, on va lui éviter des maladies. Alors qu'un cochon, bon bah, alors oui, on va aussi lui éviter des maladies parce qu'on veut qu'il grandisse pendant quelques mois. Mais après, on va le tuer, on va le manger. Et souvent, les gens disent oui, mais voilà, en fait, on fait du spécisme entre les différentes espèces, entre les différents individus de différentes espèces. En vrai, moi, je sais pas absolument si c'est du spécisme, parce que finalement, avoir un chat à la maison, c'est quand même plus pratique que d'avoir un cochon ou une vache à la maison, quoi. Alors, il y a des gens qui vivent avec des cochons, mais c'est un peu plus gros, ça prend plus de place. À Paris, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a des considérations pratiques qui sont directement liées, du coup, aux caractéristiques des individus. Et des espèces dans lesquelles on les a rangées, qui interviennent et qui pourraient faire dire que c'est pas forcément du spécisme, dès qu'on traite des individus de différentes espèces, de manière différente, quoi. Et on parlait de ça parce que tu parlais du cercle de considération morale et du fait qu'on a élargi. Et c'était quoi le reste de ta question?
Alors justement, bah, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on a élargi? Est-ce que à la base, qu'est-ce qu'on prenait en compte quelle considération morale on avait à la base? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui
Oui.
et qu'est-ce qui est imaginable dans le futur?
Ah oui, donc tu disais en fait, on a souvent la considération de son petit groupe, de sa famille, de ses amis, et ça me faisait penser en fait à une thèse de François Jacquet, qui est un chercheur en philosophie, en éthique, et qui produit pas mal de contenu sur la cause animale, et qui disait que le spécisme pourrait venir du tribalisme, donc du fait de privilégier un peu les membres de de son petit groupe, quoi. Et donc en fait il y a un peu cette idée de bah oui en fait au début alors je connais pas assez l'histoire des civilisations de tout ça pour savoir si ça a un sens dans l'évolution si c'est arrivé pour ça ou pour ça mais on se rend compte qu'effectivement, il y a un moment où, en tant qu'humain, on a envie de faire des groupes, on travaille en commun avec d'autres gens, et que bah, les premières personnes avec qui on travaille, c'est les gens qui sont très proches de nous, donc nos familles, les gens avec qui on vit, quoi. Et on a un rapport privilégié avec eux, on les protège un peu plus. Plus on arrive à être à l'aise, j'ai l'impression, dans la vie, plus on peut étendre notre considération à autrui. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup un truc du fait que on est suffisamment bien pour étendre aux autres, quoi. Et donc ce truc de cercle de considération, donc ça a été démocratisé par Peter Singer il y a quelques dizaines d'années, mais pareil, il l'a repris d'un autre philosophe ou d'un autre écrivain qui en parlait 100 ans plus tôt. Et c'est en gros l'idée que voilà, on a un peu cette famille, ces amis, et puis en fait on peut élargir un peu le cercle de compassion pour intégrer des gens qui nous ressemblent, donc on va dire les gens de notre pays. On peut intégrer les gens qui nous ressemblent un peu moins, mais qui sont peut-être quand même proches de nous, donc on va dire des gens des minorités humaines qui nous ressemblent peut-être moins, ou même pas forcément des minorités du coup, mais les gens qui nous ressemblent moins en tout cas. Et petit à petit, on peut intégrer du coup les animaux dans notre cercle de compassion. Et ça me fait penser qu'il y a un article de recherche récent là, assez sympa, où tu vois justement ce cercle avec les différents groupes et les différents rapprochements de compassion, quoi. Et tu vois que bah effectivement t'as un peu la famille au centre, et à un moment t'as les animaux, mais t'as pas tous les animaux d'un coup mélangés. T'as les animaux un peu qui nous ressemblent, donc plutôt des gros mammifères, des chimpanzés, des vaches, des cochons, et après t'as les petits animaux, quoi. Et encore après, t'as les plantes. Et là, dans cet article, il y avait aussi que encore après, t'avais les méchants, genre les gens qui respectent pas trop les codes de société, quoi. Et donc c'est assez intéressant en fait de voir ce genre de choses. Voilà, je sais pas quoi.
Et puis, ouais, parce qu'en fait. En regardant ça, on se rend compte quand même justement que de plus en plus ce cercle s'étend. Au départ, on était juste des petits groupes, on a commencé à s'intéresser aux tribus d'en face, on a commencé à s'intéresser à notre pays, aux humains de manière générale, même s'ils n'ont pas de la même couleur que nous, ça justifie pas de les mettre esclaves. Puis petit à petit, on s'intéresse aussi aux droits des femmes, pourquoi est-ce qu'elles ont moins de droits, pourquoi elles sont moins payées, pourquoi, etc. On s'intéresse maintenant justement à certains animaux de plus en plus. Et peut-être même justement aux machines dans le futur, etc. Et moi, je connais pas exactement d'où vient toute cette idée, mais j'ai un peu une théorie. Tu me diras si c'est correct ou pas. Il me semble que c'est une phrase que tu as dit justement dans ton explication. C'est que ça, c'est permis parce qu'on a de plus en plus finalement de temps. On a de plus en plus de ressources disponibles, d'énergie, de matériaux, que ça une fois qu'on a finalement dépassé nos besoins primaires, on peut se permettre finalement de prendre en compte de plus en plus de personnes, de plus en plus d'individus. Alors que si concrètement on est limité dans nos besoins, c'est difficile de le faire. Par exemple, je sais qu'il y a Jean-Marc Jancovici qui dit souvent que si on a réussi à sortir de l'esclavage, c'est notamment parce que on a réussi à avoir de l'électricité, des énergies fossiles, etc., qui finalement étaient même plus rentables que les esclaves. Donc ça avait plus de sens d'avoir des esclaves puisqu'on avait des esclaves énergétiques qui étaient encore plus performants. Et finalement, aujourd'hui, quand on s'intéresse justement un peu au futur, etc., on peut se dire, ok, on va vers une fin des énergies fossiles, on va vers des temps qui seront peut-être plus durs sur du court terme, dû au réchauffement climatique ou à ce genre de problème. Est-ce que on peut craindre que cette sphère morale de compassion, elle devienne plus petite, ou est-ce que tu penses que c'est quand même possible de conserver cette considération morale?
Ouais, je pense que c'est super intéressant, et ouais, c'est clairement possible que ça soit lié à nos capacités en temps, en énergie, en possibilité d'être un peu tranquille. Moi, j'ai l'impression, ça c'est un peu un sentiment personnel, mais j'ai pas lu de recherche sur le sujet. J'ai l'impression que ça rejoint un peu le truc de la pyramide de Maslow, avec t'as tes besoins primaires et tout ça, et puis quand t'arrives au bout, t'as tous tes besoins qui sont assouvis, puis après t'as le truc de self-actualization, je ne sais plus comment ça se traduit, mais tu as un peu ce truc de OK, qu'est-ce que tu vas faire toi-même?
Et c'est là où tu... Accomplissement.
Ouais, accomplissement, c'est là où tu peux, je pense, beaucoup plus t'occuper des autres. C'est quand même difficile de s'occuper des autres quand soi-même on ne va pas bien, quand soi-même on n'a pas le temps, quand on n'a pas l'argent, quand on n'a pas la capacité, donc c'est clair. Effectivement, aujourd'hui, du coup, on a de plus en plus ça, mais on l'a pas complètement. On est aussi en concurrence avec tout plein de divertissements. Donc, trouver comment parler de l'animalisme à des gens quand en face à des super séries sur Netflix et des super vidéos sur YouTube, c'est quand même difficile. Mais je pense que c'est le bon moment du coup pour réussir à parler de ça. En tout cas, dans nos sociétés occidentales là où je vis, je pense que c'est un peu le bon moment pour parler de ça à beaucoup de gens. Pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient le temps, l'énergie, les capacités de se préoccuper de ça. Et effectivement, ça fait un peu peur le côté est-ce qu'on va aller vers un monde décroissant avec moins d'énergie, qu'est-ce qu'on pourra faire, est-ce que du coup on sera plus renfermé sur nous-mêmes, un peu en mode survie, ou est-ce qu'on pourra s'occuper des autres? C'est dur de prévoir le futur, hein, mais je suis abonné à ta chaîne, je regarde tes contenus. Mais du coup, ouais, c'est dur de prédire le futur. Après, il y a des choses positives et négatives dans les deux cas. Soit on arrive à une société un peu florissante, avec plein d'énergie, avec beaucoup plus de temps disponible, où il y a peut-être plus besoin de bosser. Et du coup, là, on va se dire, bah ouais, ok, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Renseignons-nous. Et là, on aura du temps. On va se rendre compte de plusieurs choses et on va se dire, ok, bon, bah peut-être, voilà, peut-être que d'ici à ce qu'on arrive dans une société où il y a plus de travail, il y aura peut-être déjà plus d'élevage. Tu vois, les valeurs morales, je pense, augmentent quand même un petit peu. Et si on arrive, et donc on pourra se dire à ce moment-là, bah, tiens, est-ce qu'on peut aider des animaux qu'on connaissait même pas, tu vois? Inversement, si on arrive dans une société un peu en mode survie, bon bah le premier truc à faire, c'est peut-être d'arrêter l'élevage, parce qu'aujourd'hui l'élevage c'est un consommateur de ressources, c'est-à-dire qu'il faut donner plusieurs kilos de plantes à un animal. Pour manger un kilo d'animal. Et donc au niveau de tous les nutriments confondus, en fait, c'est plus rentable de manger directement des végétaux que de les donner à manger à des animaux et de manger l'animal ensuite. Donc du coup, s'il y a une crise un peu avec ce qu'on imagine d'un monde un peu en mode survie, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui feront de l'élevage, quoi. Ça serait encore pire, quoi. Donc voilà, et on peut se dire qu'une fois que là, les valeurs un peu animalistes commencent à être diffusées dans la société, que on arrive à arrêter l'élevage, on peut se dire bon bah est-ce que vraiment il y a des gens qui vont reprendre l'élevage à ce moment-là? Bah, ça paraît peu probable, quoi.
Ouais, en fait, ça pourrait même améliorer, disons, le sort des animaux, en tout cas leur nombre d'exploitation, parce que, ouais, aujourd'hui, au niveau des terres que ça utilise, de l'eau que ça prend, de la nourriture que ça demande, etc., c'est vraiment beaucoup plus rentable de manger directement les végétaux plutôt que d'avoir des animaux, quoi. Et, bah, écoute, si t'es d'accord, je te propose qu'on passe aux questions de fin.
Ouais.
Les questions de fin, du coup, ben, j'en ai trois. La première, c'est de façon beaucoup plus globale, pas forcément liée aux animaux. Est-ce que tu penses que l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt pessimiste, plutôt optimiste? Est-ce que quand tu penses à l'avenir, ça te rend enthousiaste ou ça te fait méga flipper?
Bon, je crois que ma réponse se voit. Pour les gens qui regardent la vidéo, non, moi je suis plutôt optimiste dans la vie. Après voilà, c'est dur de prédire le futur, hein. Il peut se passer 10 millions de choses, même là il suffit de regarder les dernières années, il se passait tellement de choses qu'on n'avait pas vraiment prévu. Je pense que c'est dur. Après bon, c'est plus cool de vivre en étant optimiste, ça n'empêche pas de vouloir faire changer les choses, de vouloir faire accélérer le changement et tout ça. J'ai aucune idée concrète de comment va se passer l'avenir, je pense que c'est très difficile, mais je suis assez optimiste parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais été dans un aussi bon moment de société, civilisation, pas que humaine, enfin principalement humaine là, mais même un état mondial. J'ai l'impression que ça a jamais été aussi bien sur la Terre qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est assez bizarre quand je dis ça, les gens se disent mais non, mais c'est n'importe quoi, mais t'es au courant, attends, on tue 3 milliards d'animaux tous les jours, c'est plus qu'avant, c'est on en tue de plus en plus, tu vois. Et moi je dis non, en fait, on n'a jamais été dans un meilleur état qu'aujourd'hui, parce que si tu regardes finalement entre aujourd'hui et la fin des temps, on va dire, enfin le jour où il y aura plus de terre par exemple, en fait, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'arrêter l'abolition, d'arrêter l'abolition, d'avoir l'abolition de l'élevage, par exemple, d'arrêter l'élevage. On n'a jamais été aussi proche d'aider des animaux sauvages s'il y a besoin de les aider éventuellement. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche, mais dans un sens où on est mieux cette année que l'an dernier. Je pense que le monde a assez évolué pour que, si tu vois, l'an dernier, on avait dû estimer combien d'animaux au total on aurait tué jusqu'à la fin des temps, on aurait eu un chiffre. Et avec l'évolution qu'on a eue dans cette année, bah, je pense que le chiffre de combien d'animaux au total on va tuer jusqu'à la fin des temps, il est inférieur à ce qu'on avait il y a un an. Et il est inférieur à ce qu'on avait il y a 10 ans, il est inférieur à ce qu'on avait il y a 20 ans. Je pense que, tu vois, depuis que L214 est arrivé en France, l'association qui montre les vidéos d'élevage, qui s'occupe de plein de sujets après sur politique, pratique et autres pour les animaux, depuis que cette association est arrivée, bah, il y a eu un bond énorme, il y a eu une réduction énorme en fait du nombre total d'animaux qui va être tué jusqu'à la fin des temps en France, quoi. Et je pense à même des implications mondiales, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on est plutôt au meilleur moment de l'histoire de la planète et de tous ses habitants aujourd'hui. Et je suis plutôt optimiste pour l'avenir.
Fantastique. Et si tu devais t'imaginer un avenir vraiment radieux, une utopie incroyable, ça peut être une valeur particulière ou même un système entier que tu aimerais bien voir, concrètement, à quoi elle ressemblerait ton utopie?
C'est une bonne question, je pense que j'ai pas la réponse. Après, les assos dans lesquelles je bosse, donc l'asso que j'ai fondée s'appelle Mission Sentience. Je pense que la sentience est au cœur, et l'autre asso dans lequel je bosse, c'est Futur. Donc juste Futur, ça doit un peu te parler, je pense. Et donc le but, c'est un peu d'instaurer une nouvelle vision du monde, avec ce que je disais tout à l'heure, avec principalement le fait de voir les individus pour ce qu'ils sont, quoi, pour des individus, et de les voir comme ils sont pour ce qu'ils sont, quoi. Donc c'est pas vraiment le délire de il faut aider les animaux parce que c'est des animaux, je sais pas quoi. C'est vraiment essayer d'avoir une meilleure compréhension du monde. Donc mon utopie à court ou moyen terme, c'est ce truc là après donc c'est vraiment de se rendre compte vraiment de quel est le monde dans lequel on vit. Et notamment, je pense que se rendre compte de quel est le monde dans lequel on vit, ça passe beaucoup par se rendre compte de qui sont les habitants du monde dans lequel on vit, qui ils sont, comment ils vivent. Tu vois, quand on pense à un animal, aujourd'hui, je te dis, pense à un animal sauvage. Tu vas me répondre un lion, tu vois. Moi, j'aimerais bien que dans 50 ans, ou dans
il
10 ans.
Il faut se convertir en mentalisme, là. C'est exactement ça. Incroyable.
Mais tu vois, j'aimerais bien que dans, bon, le plus tôt possible, mais disons, allez, dans 10 ans, j'aimerais bien que quand on pose la question à quelqu'un au pif, vas-y, pense à un animal sauvage, ils nous disent un insecte, tu vois, je dis même pas le nom d'un insecte, mais qu'ils nous disent un blackfly, je sais pas quoi, qu'ils nous disent un escargot, qu'ils nous disent, en gros, un animal qui finalement est plus représentant du monde des animaux sauvages qu'un lion, parce que les lions... Il y en a pas tant que ça finalement, quoi. Et je crois qu'il en reste quelques milliers ou peut-être dizaines de milliers, je sais plus là, mais il y en a pas tant que ça par rapport à plein d'autres animaux sauvages, quoi. Et souvent, je pense qu'on a une vision un peu faussée du monde, parce que on est encore tout jeune, je pense, dans l'histoire de l'humanité, et notamment dans les trucs animalistes, et on n'a pas encore une bonne connaissance du monde. Mais je pense que ça passera par mieux connaître ces individus. Après, j'ai tiens, pour les gens qui regardent la vidéo, dans Mission Sentience, je fais un peu de pub, on a développé un jeu qui s'appelle Animal Line, la frise de la condition animale. Et en gros, c'est un jeu avec des cartes où on doit imaginer justement le futur de ce qui va se passer pour les animaux. Et on avait fait aussi des versions avec science et technologie et politique qui sont assez intéressantes aussi. Mais là, on a pas mal développé la version animale. Du coup, bah, y a un peu, voilà, quelle est ton utopie? Bah, finalement, quand tu joues au jeu, les gens construisent en fait leur utopie en se disant, bah, ok, qu'est-ce qui va se passer demain? Et ça, est-ce que ça va arriver après ce truc-là ou avant ce truc-là? C'est un jeu où tu dois imaginer, tu vois, là, pour me jouer une carte, c'est une chaîne de supermarchés devient 100% vegan. Toi, tu dois imaginer à quel moment c'est censé arriver, ou 100 000 personnes à la marche pour la fermeture des abattoirs. Donc la grande marche militante annuelle. Donc il y a des trucs comme ça, tu dois demander un peu comment ça va arriver, et donc ça permet un peu d'imaginer un futur positif. Donc un peu toujours dans cette idée de se dire, il peut se passer des choses positives et ça peut même arriver assez vite, quoi.
Mmh. Ah, c'est excellent parce que déjà la prospective, il n'y en a pas beaucoup qui en font. De la prospective positive, encore moins. De la prospective positive sur l'animalisme sous forme de jeu de cartes, c'est vraiment fantastique en vrai.
Parce que tout seul, on est peut-être tout seul. Il y a aussi des trucs négatifs. Hein. Il y a aussi genre le gouvernement dissout les associations animalistes les plus importantes. Ah. Ça, tu la diras à Brigitte Gauthier. Il y a la viande cultivée devient illégale suite à une levée de boucliers des lobbies et de l'opinion publique. Là, il y a aussi des cartes négatives, mais globalement, je pense qu'on peut imaginer, quand tu mets toutes les cartes, les négatives, les positives, t'as quand même l'impression que ça peut aller dans le bon sens, entre guillemets, ça peut aller dans un truc où la plupart des gens sont d'accord pour appeler ça un meilleur avenir, quoi.
Et concrètement, typiquement, ça, est-ce qu'on peut retrouver ça où?
Alors le jeu est disponible directement sur internet, sur notre site internet missionsentience.org. Tu peux le télécharger, l'imprimer, et bientôt là on va imprimer plusieurs dizaines de paquets qu'on pourra envoyer à des gens qui voudront l'avoir. Après c'est un jeu où il y a une partie un peu intello compliquée, donc en fait notre principe aujourd'hui c'est qu'on essaye de former des animateurs et des animatrices pour qu'ils comprennent bien le jeu, qui comprennent bien ce qu'on veut faire passer dans le jeu, donc cette vision un peu positive en lien avec nos valeurs, et qui maîtrisent un peu les cartes. Là, il y a des cartes, mais en fait, derrière chaque carte, tu as quelques petits paragraphes de description avec, si tu veux, un peu des petites idées waouh, un peu comme, bah, je sais pas, là, je pense au truc, mais c'est pas ça, mais il y a un peu des petites idées que tu n'avais pas pensé, et l'idée, c'est... Là, pour la première étape de diffusion du jeu, c'est de former des gens. Donc, tu as un parcours de formation où tu as une vidéo de formation que tu suis en ligne avec un petit texte à lire et tu apprends un peu à découvrir les cartes. Et après, tu animes toi-même des parties. Et donc, nous, on anime pas mal de parties, principalement à Paris. Mais du coup, il y a des gens en Suisse, en Espagne qui commencent à se former pour animer des parties aussi, quoi. Donc, tout est sur le site internet. Et si tu ne trouves pas, on peut nous contacter directement missionsentience.org et cliquer sur la page contact, quoi.
Ok, fantastique, je me réjouis de voir l'évolution de tout ça en tout cas. Et du coup, dernière question, grosse responsabilité en plus pour cette question. Si t'étais sur une grande scène comme ça, que t'avais un micro à la main et que devant toi il y avait l'humanité tout entière et que tu devais lui passer un message en 2 minutes, qu'est-ce que tu lui dirais?
Putain, c'est comme aujourd'hui alors là, ok. J'avais regardé tes autres vidéos de podcast et donc j'avais vu qu'effectivement tu posais ces 3 questions à la fin. mais j'avais pas eu le temps de me préparer bien à la question, mais j'avais un truc qui m'était venu en tête directement. C'est le tout le monde sait que tout le monde sait. En gros, j'ai l'impression qu'il y a un truc particulier à parler à l'humanité entière et qu'on dirait pas la même chose si on parle à l'humanité entière d'un coup que si on doit parler à chaque personne individuellement. Dans le sens où quand tu parles à l'humanité entière, tu leur fais passer un message, mais le truc que tu as aussi comme information, c'est que tout le monde est au courant. Alors il faudrait que tout le monde soit au courant que je suis en train de parler à l'humanité, mais je suppose que c'est ça le truc. Tout le monde est au courant que tous les autres sont au courant. Et en fait, ça, je pense que ça a une force considérable. Parce que comme on parlait tout à l'heure de l'abolition collective de l'élevage, par exemple, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pourraient, de manière un peu indépendante, se dire ok, oui, je trouve que c'est horrible ce qu'on fait aux animaux. Ok, on pourrait arrêter l'élevage, mais c'est difficile d'en parler en société, c'est difficile de concrétiser ça par des actions tous les jours. Alors c'est pas difficile, si difficile, on en reparlera juste après, mais en gros, si tout le monde pouvait savoir que oui, en fait, tout le monde a vu les vidéos des élevages et que tout le monde est au courant, et donc en gros, tout le monde est au courant que tout le monde sait que c'est horrible, je pense que ça serait beaucoup plus facile pour faire changer les choses. Et du coup, je sais pas ce que je leur dirais exactement, parce que du coup, j'ai pas encore préparé ce discours-là. Je pense que c'est un peu tôt, mais je pense que je dirais un peu les trucs de base. Je pense qu'il y a, moi j'ai un peu l'idée qu'il faut pas prendre les gens pour des cons, que les gens sont assez intelligents, que c'est plus que effectivement ils s'intéressent pas forcément au sujet parce que le sujet est pas très intéressant, qu'ils ont pas le temps, qu'ils ont des trucs à gérer dans leur vie. Quand tu bosses toute la journée, même dans nos sociétés en France, en Suisse. Même si tu fais un boulot de bureau ou autre, à la fin t'as pas forcément envie de réfléchir le soir quand tu rentres chez toi à des trucs philosophiques un peu compliqués. Donc je pense que je dirais un peu les trucs de base, de trucs que je dis depuis 6 ans maintenant, qui est que on n'est pas obligé de manger des animaux pour être en bonne santé, que les animaux ils ont pas envie de vivre ce qui leur arrive dans les élevages, que on n'est pas obligé, ils ont pas envie. Bon bah du coup peut-être on pourrait arrêter de le faire, ça les fait souffrir, c'est très grave, on se rend pas compte de l'ampleur que c'est pour chaque individu, les souffrances qu'ils ont sont vraiment énormes, c'est des trucs auxquels on n'imaginerait même pas qu'un humain puisse subir ça toute sa vie, et donc bah, pour ces raisons-là, je proposerai aux gens si est-ce qu'ils ont envie qu'on arrête collectivement. Et j'espère qu'ils répondront oui. Il y a une dernière question que tu posais aux gens, que tu m'as pas posée, mais que je trouvais super intéressante,
Ok.
et pour laquelle c'est la seule où j'avais prévu une réponse. C'était la question,
Dis-moi.
est-ce qu'il y a une question qu'on te pose jamais et à
Ah
laquelle tu
ouais.
voudrais répondre?
Vas-y.
Eh ben effectivement, il y a une question qu'on me pose jamais et à laquelle je voudrais répondre.
Bah, je t'ai pas posé, visiblement.
Non, mais c'est que. Alors, non, là, la question c'était très cool. Bah, les gens souvent se cherchent plus des excuses. De oui mais je fais ça machin ou se cherche un truc un peu personnel de ok qu'est-ce qu'il faut que je fasse bon bah là je suis en train de manger des animaux t'es en train de me dire c'est ça le problème ok il faut que j'arrête de manger des animaux et même quand tu parles de l'abolition de voter l'arrêt de l'élevage beaucoup de gens se disent ah oui mais moi du coup je fais ça il y a des gens j'ai vu des gens qui disaient ah non mais moi je mange des animaux donc je pourrais pas voter l'abolition de l'élevage. Et je pense que c'est vraiment le pire truc qu'on peut avoir, quoi. Quelqu'un qui serait favorable à se dire on arrête collectivement n'est pas prêt à voter parce qu'il se dit que personnellement il serait genre pas cohérent ou je sais pas quoi, quoi. Alors que ce serait cohérent de voter pour ce pour quoi il croit, en fait. Et donc la question qu'on me pose jamais, je pense que c'est ça serait comment agir le plus simplement possible et de la manière la moins chiante possible. Et moi j'aurais envie de répondre. Un truc que malheureusement pas beaucoup de gens répondent et qui pourtant me semble être la première réponse et le truc sur lequel on a le plus d'impact, c'est de faire un don à une association qui s'occupe de faire avancer bah, la cause animale, puisque c'est le sujet, ou n'importe quelle autre cause, si c'est autre chose auquel on pense. Je pense que c'est l'action principale qui a le plus d'impact aujourd'hui, qui est le plus facile à faire, qui est le moins chiant à faire. Alors c'est chiant de perdre de l'argent, ça veut dire que... Alors, on va peut-être acheter un appartement qui sera un peu plus petit, louer un appartement plus petit, aller un peu moins en vacances, louper un ou quelques ciné dans l'année. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment l'action qui a le plus d'impact et qui est vraiment tellement facile à faire. Et on s'en rend pas compte parce qu'il y a un gros tabou sur l'argent, en tout cas en France, je sais pas trop en Suisse comment c'est, mais... Il y a des gros tabous sur l'argent en France, on n'ose pas trop en parler. Quand les associations demandent, elles demandent des dons, mais d'une manière, bon, vous aimez bien ce qu'on fait, faites-nous un don. Et en fait, on ne se rend pas compte que, faire un don, ça permet de faire avancer les choses concrètement, parce que les dons, en fait, par les assos, sont utilisés pour employer des gens, pour embaucher des gens. Et moi, je vois bien que c'est vraiment le principal levier qu'on peut faire. Ça a rien à voir entre une asso qui a des bénévoles, uniquement des bénévoles, et une asso qui peut avoir des employés à plein temps pour bosser sur le sujet. Nous, dans Mission Sentience, là, cette année, on avait pu embaucher 3 personnes. Et si tu veux, tout ce qu'on a fait avant, bah, c'était un peu ridicule à côté de ce qu'on a pu faire en un an avec 3 personnes salariées. Et c'est pareil pour L214. Aujourd'hui, ils sont 80 employés. Et c'est évident qu'ils ne pourraient pas faire tout ça s'il n'y avait pas autant de gens, quoi. Et souvent, quand on fait un don, il y a aussi ce côté de bon, bah, je vais donner, mais on va donner genre 10 euros par mois. Alors peut-être en Suisse, on donne un peu plus, mais souvent, il y a un peu ce côté un peu symbolique. Et moi, je pense qu'en fait, si on veut sérieusement traiter les problèmes, bah, il faut donner sérieusement. Et je pense que la cause animale, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est très important et que c'est beaucoup plus important que 10 euros par mois. Et je pense que les gens qui sont très motivés par la cause devraient plutôt se dire, mais ok, en fait, combien je veux vraiment donner? Et se rendre compte que, je pense, en réfléchissant un peu, on se rend compte qu'en fait, on est prêt à donner 50 ou 100 euros par mois. Alors évidemment, quand on a un salaire qui va avec, hein, je pense que c'est plus compliqué si t'es au salaire minimum, c'est plus compliqué quand t'as des enfants, quand t'as plein de choses comme ça, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient donner et qui se limitent dans leurs dons parce qu'ils n'ont pas assez réfléchi à la question et qui ne sont pas assez rendus compte du pouvoir qu'avait leur argent, quoi. Et qu'il y a un peu ce truc, voilà, un peu tabou, dont on veut pas trop en dire, quoi. Et voilà, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment l'action la plus simple et la moins chiante et la plus efficace, c'est vraiment, je pense, faire des dons et faire des dons conséquents, disons à partir de 50 ou 100 euros par mois, quoi.
Et concrètement, c'est quoi les associations du coup les plus efficaces à ce niveau qui vont le mieux utiliser notre argent?
On pourrait repartir sur plusieurs heures de conversation. Il y a tout un champ du militantisme qui justement s'intéresse à quelles sont les associations les plus efficaces, donc qui s'appelle l'altruisme efficace, donc comment aider les autres et de façon la plus efficace. Globalement, il y a plein d'éléments pour un peu calculer quelles associations vont être efficaces ou autres, mais c'est encore au début. C'est même encore plus au début que l'animalisme. Donc c'est difficile de dire c'est telle association qui est vraiment la plus efficace. Ça dépend beaucoup de quelle cause on peut penser qui est vraiment efficace ou pas. Il y a des gens qui vont nous pas bah, voilà pour parler pour moi par exemple dans Mission Sentience, dans Futur, on est beaucoup plus sur des causes long-termistes, donc à long terme. On essaye de faire changer culturellement les valeurs de la société. Donc c'est des choses qui sont pas visibles directement. Tu vois, on peut compter le nombre de vues qu'on a sur YouTube, on peut compter ce genre de trucs, mais c'est un peu moins évident que beaucoup d'associations qui vont faire des choses plus court-termistes et beaucoup plus vérifiables rapidement. Donc il y a beaucoup de débats, de questions, et globalement il n'y a pas des réponses très claires sur quelles sont les associations les plus efficaces. Ça évolue, en fait, ça évolue un peu chaque année, tu vois. Et je vois par exemple dans le milieu, voilà, où je suis assez proche, il y a des associations pour lesquelles on n'avait jamais fait de demande de subvention auprès d'évaluateurs du milieu de l'altruisme efficace. Donc on n'avait jamais été vraiment évalué, tu vois, nos actions, nos associations n'avaient pas vraiment été évaluées. Et à partir du moment où on a commencé à faire des demandes de subventions, alors je dis on, mais en fait c'est principalement Mathaïs Souchon, que je t'invite à interviewer un prochain jour, qui s'occupe de plusieurs assos, dont les estivales de la question animale, dont j'invite beaucoup de gens à venir, on pourra en reparler après si tu veux. Mais en gros, à partir du moment où il a commencé à faire des dossiers de subventions, il y a quasiment toutes les associations dans lesquelles il travaille qui ont reçu des subventions qui proviennent du milieu altruiste efficace, et qui sont du coup une sorte de signal pour dire, bah oui, en fait, là, ce que tu fais, on considère que potentiellement c'est parmi les trucs les plus efficaces parmi le budget qu'on a là dans ces 3 mois où on doit donner de l'argent à des associations, quoi. Donc il y a un cadre qui est très contraint, qui est pas évident, mais petit à petit on voit que voilà, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, et en fait ce qu'ils faisaient avant que ça soit évalué, avant qu'ils reçoivent la subvention, c'était déjà efficace. En fait, ils faisaient la même chose. C'est juste que tant que tu as pas soumis, bah tu sais pas à quel point c'est efficace, et les évaluations que tu as, c'est vraiment très circonstanciel par rapport à beaucoup de choses. Voilà. Donc j'ai pas de réponse claire. Je pense que notamment la plupart des associations qui bossent dans l'animalisme, et notamment dans l'élevage ou les animaux sauvages, sont des associations potentiellement très efficaces pour plein de raisons qu'on va pas détailler maintenant, quoi.
Fantastique. En tout cas, c'était vraiment passionnant, et je te remercie beaucoup.
Ben merci encore à toi.
Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.